Let's go, il est 16h30, on est en direct sur le site de la Maison Populaire. Merci Juliette, on y va.
Merci Pierre. Bonjour et bienvenue en direct du salon de la Maison Populaire de Montreuil dans le 9-3. Donc la Maison Populaire, plus communément appelée Maison Pop, est une association culturelle qui propose de nombreux ateliers à plus de 2000 adhérents. Musique, gymnastique, danse, langue vivante, art plastique. N'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site internet www.maisonpop.fr pour découvrir notre riche programmation culturelle.
Vous êtes à l'écoute de la première rencontre Fablabla. Ce plateau rencontre est diffusé en direct streaming live sur notre site internet. Vous pouvez aussi poser vos questions sur Twitter hashtag Fablabla. Aujourd'hui, vous avez le champ libre pour poser vos questions aux makers, hackers, responsables d'ateliers ouverts de fabrication numérique, Fablabla, managers, forgers numériques et bricoleurs digitaux humanistes. C'est aussi l'occasion de poser vos questions et de partager une réflexion philosophique sur la culture libre, l'autonomie et le travail collaboratif. En quoi cette nouvelle manière de créer modifie notre rapport aux objets, au travail et surtout notre rapport à l'innovation? À quoi ressemblent ces fabriques de l'innovation? Comment s'organisent-elles? Pourquoi et comment favorisent-elles le jaillissement d'idées novatrices? Vaste programme! Et pour m'accompagner aujourd'hui, je vous présente notre facilitatrice pour la deuxième fois, Juliette.
Merci Pierre, vous êtes aussi facilitateur à vos heures. Et donc pour Fablablater avec nous, nous accueillons Pierre-Julien de la Fuente, bricoleur digital humaniste et créateur du site utopieconcrète.org.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Nous accueillons aussi Mostafa Hadji, président de l'association Jeunesse, Enfance et Territoire Solidaire. L'association mène depuis près de 2 ans des ateliers intitulés « Innovation numérique, pourquoi pas nous ?» en direction des jeunes générations. Welcome Mostafa.
Merci beaucoup.
Nous accueillons également en nombre l'association CODEV, représentée par Stéphie Vincent, directrice et consultante des innovations sociales et numériques, Thomas Bello, chargé de développement et artiste multimédia, et Vivien Roussel, Fab Manager expert en impression 3D.
Un deuxième Mathieu, designer en communication, il accompagne et pilote depuis 10 ans le développement stratégique et opérationnel de projets culturels. On commencera par lui.
Nous sommes également ravis d'accueillir Chloé Lembo, qui est designeuse et intervenante à la Maison Populaire pour l'atelier Bidouille. Elle nous rejoindra à la fin de son atelier.
Ruben Salvatore Torres, architecte représentant du collectif 14, collectif pluridisciplinaire architecture et co-construction.
Nous accueillons également notre ami Vincent Roudot, qui est cofondateur de Black Box et intervenant à la Maison Populaire pour les ateliers bidouille et robotique 3D.
Il a passé le nouvel an sur les îles Canaries, il s'appelle Ariel Martin Pérez, directeur artistique et illustrateur. Dans le cadre du Pop Lab, Ariel est ici aujourd'hui pour nous parler d'un spécimen de verre qui digère le polystyrène et il présentera et il animera ce soir le premier atelier de publication assistée par ordinateur à la Maison Populaire. Bonjour. Encore à moi?
Oui.
Et bien sûr, Kerry Gamon, qui sera en direct, qui est déjà là, on la voit à l'image. Hello Kerry! Yes! Est-ce qu'on l'entend? Ah, on t'entend pas! C'est pas grave. Donc elle est en direct de Artilec à Toulouse. Donc elle est fan manageuse. On t'entend?
Vous m'entendez?
Ouais,
on t'entend!
Ça marche. Bonjour à tous!
Bonjour, bonjour!
Je ne crois pas qu'il soit encore arrivé, mais nous accueillons également Philippe Schisser, qui est notre compatriote montreuillois, puisqu'il est président d'EcoDesign Fab Lab dans le quartier de Mosinor.
Et aussi Yann Oconte, professeur agrégé en design et doctorant à Paris 8, qui nous éclairera et complétera nos questions par une réflexion philosophique.
Nous avons aussi la chance d'accueillir Anastasia Koslov, qui est coprésidente de l'association Le Jardin d'Alice, qui s'est installée depuis peu à Montreuil.
Et bien sûr, vous les adhérents de la Maison Populaire qui êtes là depuis 50 ans, et ça en fait des générations et des générations, c'est pour vous que cette émission a lieu, c'est l'émission du Pop Lab, c'est pour que vous puissiez poser vos questions à toutes ces personnes qui sont là, à Montreuil, autour de nous, avec nous, constamment, et savoir qu'est-ce qu'une imprimante 3D, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert toutes ces machines, et qu'est-ce qu'on y fait à la Maison Populaire. Voilà, voilà. Il doit partir à 17h, il a des enfants à aller chercher, je l'ai rencontré il n'y a pas très loin, une ou un encore. Notre première question s'adresse à Mathieu Marchal. Sur votre site, on peut lire « Sans compréhension des systèmes techniques qui nous environnent, nous perdons notre capacité d'agir dans le monde ». Est-ce que vous pouvez développer et par la même occasion nous parler du projet Les Chaudronneries ?
Avec grand plaisir. Bon, d'abord, merci. Un grand, grand, grand merci à la Maison Populaire, évidemment, et puis à toi, Pierre, de m'avoir invité. Je suis très heureux de découvrir l'ambiance qui s'y trame, parce que je ne connais pas du tout, en fait. Enfin, je connais de nom la Maison Populaire, mais c'est la première fois que je mets concrètement les pieds à la Maison Populaire. Donc voilà. Merci beaucoup. Cette grosse initiative. Donc, en effet, sans compréhension des systèmes techniques qui nous environnent, nous perdons notre capacité d'agir dans le monde. Alors oui, ça paraît un peu fou comme ça. Alors, en expliquant cette phrase, ça va vous permettre de comprendre un peu le travail que je mène depuis quelques années, et notamment le projet que je suis en train de monter aux Chaudronneries de Montreuil, dont je suis le directeur de projet. Alors, sans compréhension des systèmes techniques. J'entends par compréhension, il faut bien définir ce que j'entends par compréhension. Comprendre, pour moi, c'est comprendre profondément, comprendre totalement. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte cérébral uniquement, mais c'est un acte d'implication. En ce sens, j'aime bien penser une phrase d'un ethnologue malheureusement mort fin des années 80, le roi Gourand, qui nous dit que il faut pratiquer pour sentir et sentir pour comprendre. Alors, j'aime beaucoup cette phrase parce que ça correspond bien, en fait, notamment au sujet dont on parle aujourd'hui, mais surtout au travail que je mène depuis quelques années. Alors, pratiquer, il faut d'abord comprendre ce que veut dire pratiquer. Pratiquer, c'est un acte de faire, c'est l'acte de s'impliquer dans quelque chose, ok, donc de s'investir totalement dans quelque chose. Et pratiquer, c'est pas juste faire une fois. Pratiquer, c'est itératif. Si on fait plusieurs fois, on refait, on continue à faire, et à un moment donné, on commence à accéder à ce que la technique nous propose réellement derrière. Ok. Ça étant dit, pratiquer pour sentir. C'est-à-dire, évidemment, quand on commence à pratiquer, on va commencer à sentir. Sentir au sens des sens, hein, au sens de l'odorat, de la vue, de la sensation, du sensible. Et donc, après coup, de l'affect également. Donc on pratique et donc on sent, on vit petit à petit, corporellement, cérébralement, et donc, par effet de boule de neige, on commence à comprendre. Voilà un peu la philosophie qu'il y a derrière, c'est-à-dire, et peut-être d'ailleurs Yann Aucomte qui est ici pour en parler un peu plus, parce que j'aborde le sujet de manière un peu transversale, on est bien dans cette phase-là de faire les choses, les pratiquer, s'impliquer pour comprendre le monde et comprendre les choses.
Est-ce que ce qu'on fait de mieux, finalement, c'est ce qu'on ne sait pas faire ?
Probablement, de manière... quand on parle de l'amateur, probablement, de cette vision-là. Néanmoins, dans cette injonction-là que je fais sur « sans compréhension des systèmes techniques, on risque de perdre notre capacité d'agir », c'est sous-entendu que c'est exactement ce qui nous est enlevé aujourd'hui. En tout cas, c'est un risque, c'est une peur. Quand je dis système technique, pour éclairer un peu le discours, c'est je parle de tout ce qui nous entoure techniquement. Autant, pour aller très directement sur la technologie, autant les smartphones qu'on a dans notre poche, autant les voitures, autant on peut parler de l'imprimante 3D aujourd'hui, on peut parler de l'imprimante laser standard. Voilà, l'ensemble des systèmes techniques, notamment les médias, sont un système technique, sont des systèmes techniques. Donc articulés, réticulés par un ensemble de techniques. Et donc, sans comprendre profondément ces techniques-là, on risque concrètement de perdre notre capacité d'agir parce que on perd la compréhension de ces outils-là.
Alors c'est très important pour vous qui êtes là en public et qui nous écoutez, puisque c'est finalement le fond du sujet. C'est pas parce que Mathieu doit partir en premier qu'il prend la parole en premier. C'est pas parce que voilà, c'est vraiment le fond du sujet. C'est par rapport à ces techniques, qu'est-ce qu'il reste? Voilà, il reste une réunion. Aujourd'hui, on est là tous ensemble et on parle de technologie. Tous ces micros, tous ces ordinateurs, cette imprimante 3D qui est là, on va en parler. Qu'est-ce que c'est? Mais finalement, est-ce qu'on va peut-être pas finalement parler de nous au départ et de qui on est face à tout ça?
Donc je te laisse. Exactement. Et d'une certaine manière, par la compréhension des techniques, on se découvre aussi et on découvre comment on appréhende le monde aussi. C'est toute la question qu'il y a derrière. Alors, à partir de ça, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est peut-être aussi le sujet. À partir de cette phrase lancée comme ça, donc moi j'accompagne depuis, comme tu l'as très bien dit, depuis quelques années des projets, notamment projets culturels, mais aussi sociaux, et aujourd'hui surtout des projets qui s'articulent sur ce que j'appelle les nouvelles économies ou les économies bienveillantes. Donc des économies ou des modèles de projets qui vont avoir qui vont tendre à ce que moi j'appelle en tout cas l'épanouissement et l'émancipation de l'ensemble des acteurs dans une chaîne de production. Donc réfléchir à ce que l'ensemble des acteurs d'une chaîne de production s'émancipent et s'épanouissent par le biais de cette production-là. Alors ça peut être la nature, ça peut être l'homme, ça peut être l'ensemble en fin de compte de tous les acteurs qui vont agir dans une production. Pour ça, aujourd'hui je travaille aux Chaudronneries à côté, donc qui est au 124 rue de Rosny à Montreuil, pour développer un projet multifacette. Alors pour les trucs formels, il va avoir des espaces de travail partagés, il va avoir des ateliers de fabrication, tout ça. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on va monter un projet qui s'appelle les quarantaines heureuses, que pour l'instant j'appelle comme ça.
En référence aux 40 rugissants, 115e rang, est-ce qu'il y a...
On pourrait, mais c'est surtout en tant qu'une référence aux quarantaines qui ont été assez malheureuses dans l'histoire, dans l'histoire du monde.
Les 30 glorieuses...
Non, les quarantaines médicales. Les quarantaines médicales. Donc le fait de sortir un sujet qui a priori est corrosif ou porteur d'une maladie qui pourrait se transmettre, on le met en quarantaine pour l'isoler et le soigner.
Donc le téléphone portable, venons-en là.
On y va direct. Ces quarantaines vont analyser des technologies, des techniques, des systèmes techniques qui vont être décortiqués, démontés, analysés, sous tous les aspects, aspect technologique pur, mais aussi historique, mais aussi symbolique, mais aussi comportemental, voilà, avec un ensemble d'acteurs. Et ces techniques-là vont être donc décortiquées pour après être reformulées. Le principe est la reformulation, par exemple, alors je vous donne un exemple, le téléphone portable, en effet, pourrait être décortiqué techniquement, tiens, d'où viennent les pièces, comment elles sont fabriquées, qui est-ce que ça précarise ou pas. Et puis, au-delà de ça, on pourrait se dire, comment fabriquer un portable localement? Comment, par exemple, fabriquer un portable à l'échelle Montreuil-Oise, voire à l'échelle du quartier Paul Signac, voilà, pourquoi pas. C'est un peu l'utopie, c'est une vision utopique du projet,
mais qui a pour but
de rassembler les gens autour d'objectifs communs, c'est-à-dire de réapprendre à vivre avec les techniques qui nous environnent. Voilà, en gros, pour faire...
Donc comment ça se passe? On vient avec son téléphone. Quel téléphone vous allez ouvrir alors?
Alors là, tu m'en demandes beaucoup trop. Le projet, la première version du projet sera en 2017. Donc on peut attendre un peu. Je me laisse un peu le temps. Enfin, nous laissons le temps parce qu'on est plusieurs à réfléchir les modalités différentes. Mais en effet, ça sera ça. C'est par exemple le smartphone de manière générale. C'est plutôt de manière générale. On viendra analyser, décortiquer avec qui? Avec des ingénieurs, avec des sociologues, avec des designers, avec les citoyens du quartier, avec les collèges du quartier. Et on viendra tous ensemble, pendant 40 jours, c'est pas forcément 40 jours, mais en tout cas, sur un certain nombre de jours, décortiquer tout ça et travailler ensemble et modeler le portable qui serait peut-être le plus adapté à nos conditions montreuilloises, par exemple.
Voilà. Est-ce que ça vous semble clair, le public qui est là aujourd'hui en direct? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Est-ce que ça vous semble complètement aberrant d'ouvrir un téléphone portable, de le démonter, d'en refaire un autre? Est-ce qu'il y a des réactions? Peut-être une réaction? Est-ce qu'on peut peut-être passer? On va vous passer le micro.
Une manière de...
C'est un peu fort, excusez-moi. Bonjour.
Une manière d'agir très à la source, c'est peut-être d'impliquer les écoles locales, qui sont les premiers utilisateurs de ces objets. Là, ça serait vraiment une action forte sur le plan local.
Alors, la passerelle entre les écoles et les lieux alternatifs, justement, c'est peut-être une question. Comment est-ce que
Par exemple, Mathieu, comment est-ce que vous communiquez tout simplement? Comment est-ce que vous vous déplacez? Vous allez faire du porte-à-porte?
Alors, ça va être concrètement le cas. Ça va vraiment être du porte-à-porte, concrètement. Ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est d'avoir une relation privilégiée justement avec les acteurs du territoire qui vont vouloir s'impliquer dans ces dispositifs-là. Maintenant, ce qu'il faut noter bien, évidemment les collèges, évidemment les écoles, mais ce qui va m'intéresser justement, c'est la pluralité des acteurs. C'est-à-dire qu'on va autant avoir des écoles que justement... Également,
on peut avoir l'inverse.
On va avoir l'inverse, c'est-à-dire que les acteurs de la téléphonie mobile également.
Exactement, c'est ça ce qui dont vous parliez.
C'est d'avoir justement une multitude de plans différents, d'approches différentes qui vont, à un moment donné, essayer de trouver un terrain d'entente, de cohésion pour créer quelque chose de cohérent.
Ça aurait été une super transition pour les utopies concrètes. On va en parler dans très peu de temps avec Père Julian. J'ai un meilleur accent là en ce moment. Non mais en fait, est-ce que vous avez bien saisi ce dont il s'agit? Est-ce que vous comprenez les enfants? Est-ce que les enfants sont là? Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que ça vous parle, tout ce vocabulaire technique? Est-ce que vous comprenez quel est l'enjeu de ça? Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce que quelqu'un a une réaction? Vous saisissez un petit peu les enjeux d'ouvrir un téléphone portable d'une grande marque, de l'analyser, savoir comment il est fabriqué, comment il est...
D'un ordinateur aussi, d'une voiture, de tout ce qu'on trouve.
On y reviendra de toute façon, on y reviendra. Je sais que vous devez partir dans très très peu de temps et on vous remercie beaucoup. Mais en privé, on se tutoie et j'aurais bien aimé vous tutoyer. Mais pour la parfaite du subjonctif pour cette émission, je vais un peu comme ça. Merci en tout cas.
Merci à vous vraiment.
On se retrouve dans... Alors il y a aussi juste un petit truc avant de partir, les cuisines.
Oui, alors on est en train également, je vais passer très rapidement dessus parce que le projet n'est pas encore acté. On est en train de monter, en effet, une cuisine, on va dire, participative dans les chaudronneries. Voilà, très rapidement, qui va permettre aux gens de venir faire à manger et partager des repas ensemble dans ce lieu-là. Voilà, faire court.
Merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui et à très très bientôt.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt.
De solitude habite toute la prod de la maison populaire. Nous sommes en panique. Nous comptons sur ADC 303. Ciao Mathieu. Fablabla, fablabla. Donc pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, voilà, c'est mercredi, on comptait que les parents soient là. Ah oui, je vois aussi Aïssa qui est là, qui fera partie de 3615 code futur. On a un Minitel donc qu'on a récupéré il y a très peu de temps. Aïssa fait de l'Arduino et il va proposer dans très peu de temps un atelier qui s'appelle 3615 Code Futur. Donc on va apprendre à programmer des petites cartes électroniques avec des programmes et on va pirater un Minitel de façon à le rebrancher sur Internet. Donc bientôt à la Maison Populaire, vous pourrez vous inscrire avec un Minitel. Merci d'être là Aïssa. On continue tout de suite avec Juliette, notre facilitatrice.
Allez, on continue avec et on va pouvoir maintenant aborder une question plus pratique, parce qu'on va observer cette machine là qui est sur la table, qui est en train de cracher des petites choses pour créer en trois dimensions. Donc vous êtes Fab Manager à Codev et vous êtes expert en impression 3D. Alors déjà, question bête, qu'est-ce qu'une imprimante 3D?
Alors on pourrait faire simple. Moi souvent je dis que c'est un pistolet à colle croisé avec une imprimante qui monte. Grosso modo, il y a un filament en plastique qui passe dans une extrémité, qui fait fondre le plastique. Et après, avec des moteurs et des axes, on va dire, on déplace la tête d'un endroit à un autre, pour pouvoir superposer des couches, comme si on dessinait, on va dire ça ressemble un peu à une imprimante, Seulement, au lieu de sortir une feuille, eh ben, elle va monter et chaque couche va se superposer sur la précédente. Et au fur et à mesure, on obtient un objet en volume.
C'est forcément du plastique ?
En fait, aujourd'hui, il doit y avoir une quarantaine de filaments pour juste cette technique-là, puisqu'il y a plein de techniques d'impression 3D, en fait. Le terme impression 3D, c'est générique, mais ça, c'est une technique, par exemple, d'impression 3D additive, mais il y a des techniques soustractives, il y a des techniques aussi avec des poudres de métal, des poudres de céramique. Donc, en fait, chaque technique a des matériaux différents, des possibilités différentes. Pour celle-ci, on peut faire des polymères. Donc en fait, c'est des mélanges de plastique. Donc on peut faire du faux bronze, par exemple, parce qu'en fait, c'est pas vraiment du bronze. C'est une poussière de bronze mélangée avec une résine, type assez proche de ce qu'on peut appeler de l'époxy. Et quand ça fond, en fait, ça se polymérise, c'est-à-dire ça se solidifie, mais par fusion. Et à ce moment-là, ça s'agglomère à la couche précédente. C'est pour ça qu'on dit du plastique, parce qu'en fait, c'est toute la famille des plastiques.
Ok. Et donc là, c'est une petite imprimante, mais il paraît qu'on peut imprimer des maisons maintenant.
Oui, ils font en béton. Alors, l'idée est assez ancienne. Il me semble que le premier, c'était un architecte espagnol installé aux États-Unis qui avait eu l'idée. Après, il n'avait pas réussi à la développer. Le projet a traîné, et finalement, c'est des Chinois à Shanghai. C'est une entreprise de Shanghai qui a développé le procédé d'impression de maison à béton. Et donc, ils ont leur mélange, on va dire. C'est un mélange spécifique. C'est pas n'importe quel béton. Et ils ont fait à peu près la même chose que cette imprimante, mais d'une taille assez gigantesque, ce qui leur permet de poser des rondins, enfin une matière qui a un certain diamètre sur la couche précédente, et donc finalement d'imprimer une maison.
Et c'est une maison entière ou c'est des modules qu'on met les uns au-dessus des autres pour créer ensuite une maison ?
Alors, les premières maisons qu'ils ont faites, c'était simplement des formes assez, assez basiques. On va imaginer un carré et puis ils impriment ce carré en hauteur. Puis après, ils l'allongent sur le côté et donc on peut rentrer dedans, on met des portes et hop, on a une maison. Aujourd'hui, par contre, ils ont développé et affiné la technique. Et là, ils commencent vraiment aujourd'hui à développer des maisons avec des balcons. Par exemple, j'avais vu une esthétique, on va dire, un peu coloniale. Ils s'étaient amusés à faire une maison un peu style colonial, donc avec des reliefs en amont de la devanture, plus un balcon, plus... aujourd'hui, on commence à avoir vraiment des finesses.
D'accord. Pour avoir des petits détails.
Voilà.
Okay. Donc, à la Maison Populaire, par exemple, on a deux imprimantes 3D. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment un outil indispensable pour un Fab Lab d'avoir une imprimante 3D aujourd'hui ?
Ben, ça dépend ce qu'on y fait dans le Fab Lab, mais je dirais que si on veut aller vers du prototypage rapide, faire vraiment des vrais prototypes incorporant de l'électronique, je pense que l'impression 3D est assez importante. Après, si on a une découpeuse laser ou une machine à commande numérique, donc qui débite, on va dire, du bois, pour faire simple, on pourrait utiliser ces machines-là pour remplacer l'imprimante 3D, mais en termes de facilité de mise en œuvre d'une pièce, il n'y a vraiment pas d'équivalent à l'impression 3D. On peut faire des pièces extrêmement complexes avec des éléments, enfin des zones creuses qui seraient impossibles d'obtenir avec d'autres techniques, en fait.
D'accord.
Et aussi une légèreté, ça permet d'aller vite.
Et on a entendu dire ici que qu'une imprimante 3D, ça se dégrade si elle fonctionne pas. Est-ce que c'est vrai ?
Alors en fait, c'est marrant parce que moi, je verrais ça dans l'autre sens. C'est-à-dire finalement, je vois pas comment elle pourrait se dégrader si elle ne fonctionne pas. Par contre, une imprimante 3D open source, contrairement par exemple au modèle qui est devant moi, qui est un modèle clos aujourd'hui, qui est MakerBot.
Alors, est-ce que vous pouvez préciser est-ce que c'est open source et
alors,
clos ?
Ben, il y a des modèles propriétaires, donc c'est des modèles fermés. Des modèles, par exemple, si aujourd'hui la MakerBot elle tombe en panne, c'est pas très conseillé de la démonter et de s'amuser à bricoler dedans parce que vous perdez votre garantie. On va dire, vous achetez cette garantie quand vous achetez la machine. Par contre, l'open source, ça va être quelque chose où si jamais il y a des pièces abîmées dessus, vous pouvez l'ouvrir, la changer, c'est documenté sur Internet, il y a des gens qui partagent leur expérience, leur capacité à modifier, à améliorer, à changer des pièces. Et par exemple, sur une imprimante open source, il y a des pièces mécaniques, on va dire structurelles, du type, par exemple, qui tiennent les axes pour monter en Z ou qui tiennent les axes pour se déplacer sur les côtés. Ces pièces-là, on peut les imprimer et mettre des roulements dedans. Et ces pièces-là, si on les imprime, bon, bien sûr, ils vont s'user quand on utilise l'imprimante, mais en même temps, vu qu'on a une imprimante, on pourra les réimprimer. Donc, c'est juste quelque part inusable.
Est-ce que c'est le type d'imprimante qu'on peut fabriquer nous-mêmes ? Il existe des imprimantes qu'on peut fabriquer soi-même ?
Oui, alors en fait, il suffit simplement d'aller sur Internet et vous pouvez aller voir le projet initial de l'imprimante 3D open source qui s'appelle RepRap. En fait, ça veut dire Rapidly Machine, il me semble, ou un truc du genre. Et c'est un universitaire anglais qui a développé ça et qui s'est dit, je veux développer la possibilité aux gens d'accéder à l'impression 3D, puisque le brevet était tombé dans le domaine public, hein, c'est aussi simple que ça, technologie à 30 ans. Et je veux rendre assez accessible ces machines. Du coup, comment on fait ? Et il a eu l'idée de, à la fois, faire une machine qui peut s'auto-répliquer, et à la fois, qui est modulaire et interchangeable. Donc si vous tapez RepRap sur Internet, il y a une page wiki, il y a peut-être une vingtaine, trentaine de modèles documentés pour pouvoir fabriquer votre propre imprimante 3D. Voilà.
Donc c'est ça de l'open source ?
Ça, c'est exactement de l'open source, c'est-à-dire documenter, partager et faire évoluer avec une communauté à la fois informelle mais mondialisée et où les gens échangent à la fois du logiciel, parce que l'open source, ça peut être du logiciel, donc ça va être du software, ou du hardware, c'est-à-dire de l'électronique, c'est-à-dire des plans, des schémas, des manières de monter des circuits électroniques et d'utiliser ces circuits électroniques.
D'accord.
Merci. On va en parler. Ouais.
Ah, pardon. Non, j'avais demandé aux enfants, par exemple, s'ils ont des questions sur l'imprimante 3D qui fonctionne en face. Ah, les garçons.
Les petits génies qui font partie du Pop Lab, voilà. Qui sont là, qui sont d'habitude avec Vincent en cours. Alors, surtout réagissez, n'hésitez pas, levez la main, c'est comme. Comme vous le voulez, vous levez la main, vous réagissez. Avant de passer à Ruben Salvatore Torres, ce qui est intéressant, c'est que juste avant que vous arriviez dans le public, il y a une femme qui était là et qui me disait « Ah, c'est marrant, vous avez une imprimante 3D, dans deux semaines, je rentre à l'hôpital, l'IRM est branché sur une imprimante 3D et ils vont me faire une prothèse avec une imprimante 3D. » Donc il ne s'agit pas seulement de reproduire des petits objets de la vie de tous les jours, des petits voilà, ça rentre aussi dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire voilà, qu'on peut aujourd'hui se faire une prothèse avec une imprimante 3D. Alors je vois certains sceptiques, on en reparlera puisque débat il y aura forcément. Donc voilà, on arrive très vite à Ruben Salvatore Torres. Vous êtes architecte, vos locaux sont installés à Gaswell Productions. Première question, est-ce qu'on peut parler de travail collaboratif au sein même d'une entreprise ? Vous êtes à Gaswell, vous êtes dans les locaux de Gaswell. Alors comment ça se passe ?
Bah, en fait, on est dans les locaux, on les partage, mais on ne partage pas des travaux. On travaille des idées, des intérêts, des outils, des buts bien différents. Eux, ils sont une entreprise, ils font de l'événementiel, des grosses constructions, production bois. Lucratif, nous en tant qu'association on travaille plutôt pour les biens communs, même si on essaie de manger aussi. Mais en tant que collaboratif, je dirais que ça serait plutôt des travaux collectifs. En fait, pour les travaux collectifs, c'est un travail développé par pas mal de gens et finalement il est un auteur. Mais par exemple, au sein de l'asso, c'est plutôt du travail collaboratif parce que c'est vraiment développé par pas mal de personnes où le but c'est de faire meilleur les projets sans s'intéresser au nom de la personne qui les produit. L'auteur.
C'est parce que c'est dans les locaux de Gaswell Productions que je vous ai rencontré. Donc Gaswell Productions, pour resituer un petit peu le truc, c'est une menuiserie moderne.
Menuiserie très moderne. Ils sont des machines, une fraiseuse numérique avec laquelle ils arrivent à produire des pièces de mobilier assez importantes et intéressantes.
Voilà, et je vous ai rencontré dans leurs locaux. Donc ce qui était intéressant, ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'évidemment, et ça aussi ce sera intéressant, c'est une entreprise. Ils n'ont pas pu venir, donc ils sont vraiment tenu par des règles du marché, ce qui tend à dire que finalement les gens qui travaillent dans le collaboratif sont peut-être un petit peu plus libres et peuvent peut-être plus s'exprimer que d'autres.
Oui, je dirais qu'ils s'amusent aussi pas mal, mais c'est vrai qu'ils avaient un rendez-vous qu'ils ne pouvaient pas éviter, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas être ici parmi nous.
Et on en parlera, ils seront là très prochainement, mais en ce qui nous concerne, c'est vous qui nous intéressez. Ça a été une découverte justement dans une entreprise, les locaux de 14, donc... C'est un. Je vous laisse présenter 14 parce que là c'est.
Alors 14, bah, on est une asso, on est ici à côté, on est à 200 mètres à peu près aussi. Et selon nos statuts, il dit, nous on agit pour une architecture sociale et solidaire et une ville agile et résiliente. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on s'est déplacé à l'envers des bureaux d'architecture et des cabinets communs. On développe un projet, on s'en fout des utilisateurs, on s'en fout des... Même on ne fait pas autant d'attention aux clients, simplement on développe un objet, on a un budget, on a des objectifs et on fait un projet. Nous, on fait à l'inverse et on fait émerger les projets. On met à l'usager au centre et grâce à ça, on développe pas mal de projets. On a fait ici à côté des jeux pour enfants dans la rue Saint-Antoine, par exemple.
Alors ça, on va en parler, mais après la matrioshka, alors justement, on va récapituler parce que c'est assez, assez complexe. Vous vous en foutez? Parce que moi, ma question, c'était, mais que foutent les architectes dans ce milieu-là, en fait? On a plutôt l'habitude de voir des architectes qui se consacrent aux travaux publics, des piscines, des grands environnements, mais c'est la première fois que je rencontre un bureau d'architectes qui s'implique justement dans le travail collaboratif et dans le quartier. Enfin, on se demande...
Ouais, on est dans un milieu qui peut-être il n'est pas si répandu que les cabinets d'architecture, mais les collectifs d'architecture, ils existent, ils commencent à exister. Ils commencent même à devenir un marché, parce que la participation, elle est bien en centre. Qu'on pouvait doper jusqu'à quelques années, ça devient
obligatoire dans les projets. Mais alors, pour ce jeu, alors justement, pour ce terrain de jeu, vous m'avez expliqué, c'est absolument stupéfiant. Vous avez branché, vous êtes allé voir, pareil, c'est du porte-à-porte finalement. Vous êtes allé...
On est allé voir les gens de l'antenne des quartiers, les habitants de la rue Saint-Antoine, et à partir de là, on leur a dit qu'on voulait construire des jeux pour les enfants, et on est arrivé à développer un budget participatif des quartiers. Et à partir de là, on a pu construire des jeux en bois que vous pouvez voir. Avec, il y a une espèce de mikado avec des rondins où les enfants ils peuvent grimper. Il y a une table de ping-pong. Et sinon, un peu plus haut, à côté de l'autoroute, il y a la place de Murapêche où on a fait un espace de musculation en plein air. Des cordes pour des enfants où ils peuvent jouer aussi et s'amuser.
Alors, vous leur avez dit quoi? Est-ce que ça vous plairait de s'amuser dans ce lieu? Comment ça se passe au financement? Vous leur avez dit, bah, c'est vous qui allez financer. Votre propre terrain, comment?
C'est un peu compliqué parce que nous, on est allé rencontrer les gens, on leur disant on aimerait bien faire quelque chose ici. En fait, ça fait un moment qu'on travaille dans ce lieu-là, on collabore avec un bidonville qui travaille avec l'association Ecodrome et on a toujours travaillé avec ces bidonvilles. On a installé des sanitaires, une salle de classe et finalement une cuisine commune qui est devenue un des logements parce que c'est ça les besoins qu'ils ont. Et on rencontrait d'autres personnes de la rue aussi et ils nous disaient pourquoi vous travaillez toujours pour eux et pas pour nous. Créer un projet où on pouvait rassembler tout le monde. Et là, ça devait être dans l'espace public. À partir de là, on leur a dit qu'on voulait faire quelque chose. Mais eux, finalement, il y a plein de gens qui les promettent plein de choses. Ils nous ont dit oui. Ils nous ont dit que toujours on fait un projet. Et, ils ne croyaient pas trop. Mais on a commencé à travailler avec les jeunes. Qu'est-ce que vous voudriez faire? À quoi vous voudriez jouer? Bah oui, on voudrait une table de ping-pong. On voudrait des musculations pour pouvoir faire du sport. Et petit à petit, on les a co-conçus.
Ça dépasse donc, je vous coupe, mais ça dépasse le métier d'architecte en fait. C'est juste. On voit très rarement les architectes en train d'interpeller les enfants dans la rue, en train de dire bah, t'aimerais quoi toi? Enfin, dans l'urbanisme, on ne pose pas de questions, on nous met au-dessus des supermarchés, et puis voilà.
Mais alors, c'est pour ça que la partie intéressante vient qu'on développe les projets avec les usagers. Ah, c'est là où c'est co-conçu. L'objectif, c'est faire avec les gens.
C'est pour cette raison que...
Répondre à leurs besoins primaires par rapport à la maison.
On est très, très heureux de vous recevoir, en tout cas, à la Maison Populaire le 14, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on voit à l'écran? C'est pas très radiophonique. Mais donc, en fait, on va essayer de décrire. Ça s'appelle la matrioshka. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette fameuse matrioshka, Ruben?
Matrioshka, notre premier projet pour l'espace public. En fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans la rue? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Moderne, on a des problèmes de connexion, on n'a pas assez de réseaux, on n'a pas assez de batteries, donc on s'est dit qu'est-ce qu'il se passe si dans l'espace public, là où maintenant on commence à avoir des moins des bancs, des tables pour pouvoir jouer aux cartes, voilà, on avec des copains, ouais. Ou pouvoir utiliser l'électricité.
Mais ça, c'est un montage photo ou est-ce que c'est réellement
Une belle photo, mais c'est une photo très réelle. Et Et on a développé, on a gagné un concours de design il y a un an et demi. C'est très beau votre dessin, mais on va pas l'amener plus loin.
D'accord.
Donc, nous, on a continué à développer les projets et ça, c'est notre premier prototype de mobilier urbain qu'on a financé, autofinancé avec l'aide de notre association qui s'appelle WeShare.
Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette matrioshka? C'est extraordinaire. On la voit, ça ressemble à un satellite. Pour les gens qui nous écoutent, en fait, ça ressemble à un satellite avec des capteurs solaires et avec des tables et des chaises. Et du coup, on peut poser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut charger son ordinateur. On peut.
On a accès à l'électricité, donc on peut venir là, connecter notre son système ou venir chercher notre téléphone. De la musique, quoi qu'on veut. La place est centrée sur l'électricité, qui est bien important. Contre différents. Ça permet de faire d'autres choses.
Donc c'est voilà, c'est vrai que c'est pas très 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 radiophonique, mais on voit donc ce satellite qui fonctionne avec l'énergie solaire. Ça ressemble à une table, un totem, et on peut se connecter donc gratuitement finalement. J'espère que cette matrioshka au beau jour sera dans la cour de la maison populaire et qu'on pourra vous accueillir à nouveau, Ruben et le Club 14, j'allais dire, en fait. Donc, merci. Quelques réactions, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des gens qui entendent déjà parce que le micro de Ruben ne fonctionnait pas très bien? Est-ce que vous avez saisi l'enjeu de cette matrioshka? Finalement, c'est des lieux où on peut s'asseoir, se connecter, recharger en énergie. Qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps? Je crois que c'est, pour ne pas le nommer, notre merveilleux webmaster, mais il devrait y en avoir partout dans Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, il y a nos comptes. Qu'en pensez-vous? Un petit micro pour Yann.
Oui. Oui, c'est un projet assez emblématique. Grâce aux techniques de conception de design, parce que l'architecture, c'est quand même une. Je vais peut-être être un peu provoquant en disant ça vis-à-vis des architectes, mais c'est une partie du design. Et ça montre assez bien les potentialités de design pour ce qui est de justement concevoir des objets techniques qui ne soient pas des objets agressifs, qui détruisent des modes de vie ou qui justement viennent à l'encontre de pratiques existantes. Ça permet de produire des objets qui soient intelligents et des objets qui épousent des pratiques de vie existantes. Je trouve ça assez intéressant et assez dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas plus de budget justement pour développer ce genre de projet.
C'est pareil. Enfin voilà, elle est stockée donc dans les locaux de Gasoil Production. On la voit un petit peu comme une marionnette rangée après le spectacle. Et sur les photos, j'étais le premier surpris. Enfin, j'imagine, on se retrouverait. En plus, ça peut être un lieu où on peut s'asseoir, avoir de l'internet gratos. Enfin, c'est. On se demande pourquoi. Voilà, les pouvoirs publics, les gens, voilà, n'investissent pas. Oui, une question. Alors un micro, merci.
Par rapport du coup au possible financement de ce type d'installation, par exemple à des associations de quartier.
Une sorte de, pardon, je vous coupe, mais une sorte de forfait sur l'inscription.
Une phrase, je termine juste.
que quelqu'un veut réagir. En gros, je résume. Est-ce que par exemple, les associations pourraient pas prendre ça en compte, c'est-à-dire proposer aux adhérents ce projet-là, toutes les associations, et moyennant quoi un échange de tickets ou de
Nous, on est tout à fait partant. Maintenant, on commence à explorer les possibles voies pour vraiment que les gens ils puissent l'approprier, l'avoir chez eux, dans leur quartier, dans leur place. C'est compliqué vraiment d'essayer d'installer une table dans l'espace public. C'est très compliqué aussi d'installer une prise de sang. Ça pose énormément de problèmes. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un comité des quartiers, quelqu'un qui puisse vraiment l'entretenir. Tu n'as besoin de rien pour l'entretenir.
On aura 1000 questions sur pourquoi c'est compliqué, pourquoi parce qu'on met de l'électricité. On aura 1000 questions sur le mobilier urbain. En tout cas, on était très très heureux de vous recevoir. On attend les beaux jours avec impatience et la matrice Joshka aussi.
Et là, elle sortira à l'arrière nouveau.
Pour faire le test et tout, vous remercierez tous vos camarades et copains de 14. À très très vite. En tout cas, merci Salvador. Merci. Ruben Torres, en tout cas, allez faire un tour sur le site 14. Ça vaut le coup, les amis.
Et m'adresser maintenant à Mostafa. Donc, je vois sur la table, juste à côté de notre imprimante 3D, il y a une étrange machine qui a l'air d'être faite avec du bois. Et donc, cette machine, vous l'avez constamment avec vous, parce qu'elle est portative.
Presque.
Presque constamment, j'imagine. Voilà.
Parfois la nuit aussi.
Comment ?
Parfois la nuit aussi.
Aussi, oui.
Voilà.
Elle fait de la lumière ?
Elle fait rêver.
Oui, exactement. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous dire à quoi ça sert, comment ça fonctionne et pourquoi, finalement ?
En fait, moi, j'ai découvert cette machine il y a 3 ans, au Fab Lab à Mosinor. Bédec, peut-être que Philippe nous rejoindra. Et c'est un ingénieur vendéen qui l'a commercialise. Et en fait, c'est un peu le même système. Je parle sous le contrôle de notre ami spécialiste en 3D. La 3D, c'est 3 axes. Et là, en fait, c'est 2 axes. C'est un plateau qui va se déplacer et puis c'est l'axe vertical qui va descendre. En fait, l'axe vertical, c'est un fil chaud, un fil qui va chauffer et qui va aller découper dans du polystyrène. Voilà. Donc c'est ce fil-là qui a découpé le mot P qui est c'était passé il y a 2 mois ici. C'est ce même fil qui y a découpé cet hippocampe. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous ou pas.
Oui, oui.
C'est donc, en fait, moi, ce qui était marrant, c'est qu'il y a 3 ans, ça m'a rappelé des souvenirs que quand j'étais jeune, je faisais de la biochimie. Et en même temps, pour financer mes études, j'étais animateur et puis directeur d'un centre de loisirs. Et j'aimais beaucoup, beaucoup tout ce qui était animation technique, pas que, mais pas mal. Et je découpais des formes avec un fil électrique entre 2 bornes d'une batterie, et j'arrivais à découper des formes. Ah, sauf que cette machine-là, elle est couplée à un logiciel, et donc ça permet d'initier à partir d'un logiciel qui s'appelle Inkscape, hein, qui permet de faire de la vectorisation, et cette machine fait du lettrage, fait des formes qu'on peut soi-même dessiner sur une feuille, prendre en photo, vectoriser, et puis on a la même chose, ça peut être de la calligraphie, ça peut être un dessin, ça peut être plein d'autres choses. Mais ça reste une machine. Et puis après, pour rêver, il faut qu'il y ait...
Vous laissez aller sa créativité.
Voilà, alors, oui.
Est-ce que ça découpe autre chose que du polystyrène ? Pourquoi finalement du polystyrène ? Parce que
c'est
assez mou, enfin facile à découper ?
Oui, le fil chaud, donc il peut à partir à 30 degrés, on peut commencer à découper du polystyrène. Alors, il y a différents types de polystyrène. Alors tout à l'heure, il y a différents types de polystyrène. Il y a du polystyrène qui est presque aussi dur que le bois, qui va peut-être, qui est juste derrière là, pour qui sert à l'isolation thermique. Il y a les celui-là, c'est un polystyrène qui nous vient d'Écosse, messieurs, dames et les enfants. Ça vient d'Écosse. En fait, on l'a récupéré chez un sushi. Donc, je ferai pas de pub, mais un sushi de Montreuil qui jetait les cagettes de polystyrène. Et nous, on s'est organisé pour, surtout qu'il y a des jeunes membres de l'association qui sont le soir livreurs, et donc on récupère et on fabrique des choses avec. Je disais, par rapport à l'échange qu'il y a eu à l'introduction et puis l'échange qu'il y a eu tout à l'heure, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dedans, c'est de se dire pourquoi ne pas initier un certain nombre d'enfants et de jeunes, voire des plus grands, aux innovations numériques. Donc on commence avec la 2D, on a commencé un peu avec la 3D, mais ce qui est super, c'est que l'idée c'était de dire il y a des enfants et des adolescents qui restent parfois le dimanche traîner, ou qui n'ont comme seule perspective de rester devant une play ou de taper dans un ballon. Je ne porte aucun jugement. Et nous, l'idée, c'était de dire, ah bah tiens, ça serait amusant de permettre à ces enfants, à ces adolescents-là, de découvrir des choses qu'ils ne découvriraient pas par ailleurs. Donc on a monté des ateliers tous les dimanches. On a appelé le projet Innovation numérique, pourquoi pas nous ? Donc c'est assez, c'est un clin d'œil pour dire on peut pas voir qu'il y a une grande partie de la population qui reste en dehors de tout contact utile, intelligent avec les innovations numériques. Petite anecdote, ce qui a accéléré la création de notre projet associatif, c'est quand même un drame qui a touché un collégien de 14 ans. Et en fait, le drame, c'est grosse bagarre, et puis je m'en arrête là, qui a eu des conséquences hyper graves. C'était il y a juste 2 ans. Et c'était des ados et des enfants qui s'étaient passés, parce que c'était entre 11 et 17 ans, qui s'étaient passés des mots par SMS, et puis l'effet de groupe, ils se sont retrouvés à 30. Donc l'idée, cette machine-là, et comme toute autre machine, ça reste qu'un outil. Après, à nous de voir ce qu'on en fait. Et nous, ce qu'on a décidé d'en faire, c'est de l'utiliser pour faire monter en compétence des enfants. Maintenant, on a des enfants de 9 ans, 10 ans, qui animent des ateliers dans des écoles, des centres de loisirs, dehors, à l'occasion de la COP21. Ils étaient tout seuls. Annick, tout à l'heure, a parlé de la verrière de la cité de l'espoir.
La maison populaire y était justement, voilà, avec Pierre Julien de la Fuente, avec plein de gens.
Voilà, on y était aussi, et quand je dis on y était, c'était un groupe de 3 ados et 3 enfants qui en géraient tout seuls, en présence d'autres adultes. Enfin, voilà,
ils sont autonomes après.
Tout à fait.
Et ça, c'est valorisant.
Mais justement, c'est l'humain, parce qu'on s'est concerté sur cette machine, elle est épatante, elle est étonnante, on voit ce que vous faites avec, d'ailleurs, ce message est très clair, on se l'est passé tous. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que justement, vous avez la faculté de fédérer autour de la création et non pas de ce que ça pourrait. Voilà, on connaît toutes les dérives. Et justement, vous serez à la Maison Populaire en février et en mars pour présenter des ateliers de découpe sur du polystyrène. Ça peut être hyper intéressant, c'est hyper efficace. En tout cas, ça marche hyper bien et on vous remercie vraiment. Oui.
Juste 2 mots. Donc, les décors de Noël, par exemple, depuis 2 ans. On les a fait pour pour les enfants, mais des familles. Et c'est de belles décos faites à partir du polystyrène qui allait se retrouver dans les poubelles. Juste une dernière chose, je finis. Ça sera la dernière. Parce que je dirai pas encore. Juste une dernière chose. Cette machine-là, on en a fait profiter pratiquement 200 ados, enfants, voire des personnes un peu plus grandes. Lorsqu'on regarde sur le site combien il y en a, il y en a quelques-unes en France, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe du Nord, et il y a 0 machine en Afrique, il y a certains pays en Asie où il n'y a rien, où il n'y a pas de machine. On a comme projet d'aller, on a fait financer nous-mêmes avec la sueur de nos fronts, je parle nous-mêmes, les membres de l'association, avec l'appui aussi des partenaires, là aujourd'hui, la Maison Pop, APEDEC, on a fait financer nous-mêmes deux machines et bientôt une troisième. Et parmi nos projets, c'est de ramener cette machine au nord d'Agadir, dans un petit village où après 6 heures, il n'y a plus d'électricité, mais dans un village où il y a des enfants quand même. Autre chose, c'est de la ramener aussi en Thaïlande, dans l'île de Koh Tao, peut-être certains connaissent. Alors, je dis ça, c'est hyper important parce que à Koh Tao, on a ramassé, à l'occasion d'un séjour, plein de
chutes de polystyrène.
De polystyrène, mais aussi de plastique. Mmh.
On va en parler du plastique, Mustapha Hadji.
Cet outil nous permet aussi de parler des pollutions marines, de parler de tout un tas de choses.
On va en parler de la pollution, voilà. Justement, et on va parler de tout ça, et on vous remercie. On a compris que ces petites machines fédéraient autour d'un projet commun et de création. Encore une fois, la création est un don. Cultivons-la. Cultivons-le, pardon. Donc du coup, ce qui nous emmène tout naturellement avec ce polystyrène à Ariel Martine Pérez. Mais avant, un petit jingle. Justement, en parlant du polystyrène, quelqu'un un jour m'a dit « Mais pourquoi recycler du polystyrène? On n'a qu'à pas fabriquer de plastique. » Et ça m'a un peu interpellé. Et du coup, Ariel est arrivé un jour en me disant « Alors, Ariel est directeur artistique et illustrateur. » On parle beaucoup des machines dans les Flab Labs, mais il existe aussi d'autres formes d'études, plus précisément biologiques. Ariel, est-ce que vous pouvez nous parler de cette drôle de petite bestiole qui, d'après vous, enfin d'après les dernières études, digérerait le plastique? Alors ça, c'est totalement inédit, c'est une exclue Pop Lab, c'est une exclue Maison Pop, ça n'est pas un canular. Ariel, qui mange du plastique et qui peut en vivre?
Oui, en fait... Donc, à la fin de l'année dernière, j'ai retrouvé le Pop Lab ici à la Maison Populaire de Montreuil. Et à cette époque-là, précisément, il y avait une étude qui venait de sortir qui disait qu'il y a certains insectes qui sont capables de dégrader le plastique. Bon, en fait, ce n'est pas l'insecte lui-même, mais en fait, c'est les bactéries qui habitent à l'air dans son intérieur qui peuvent dégrader le plastique. Et jusqu'à présent, on pensait que c'était impossible à dégrader de manière biologique. Donc, notamment, on parle de larves, de ce scarabée qui s'appelle Ténébrion molitor, c'est le Ténébrion menueux. On l'appelle comme ça parce qu'on le trouvait fréquemment dans la farine des moulins parce qu'il est capable de manger des denrées très, très sèches et de survivre et d'obtenir tous ses nutriments à partir de ces matières très sèches. Et récemment, une étude démontre qu'avec les certains types de polystyrène, ils pourraient se nourrir et qu'en plus, ils seraient en aussi bonne santé que s'ils mangeaient de la nourriture d'origine biologique. Donc, on parle de cette espèce. Il y a une autre espèce aussi dont l'étude parle, qui sont les vers de cire. C'est des vers, des chenilles qui donnent lieu à un papillon. Donc, comme moi je m'intéresse aux vivants et comme ici à la visite du Pop Lab, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de restes de polystyrène, de chutes, des ateliers du Fab Lab, je me suis dit pourquoi pas lier les deux dans une réflexion de quelle est la place du vivant dans les Fab Labs. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un cycle vertueux dans lequel toutes les déchets ou la plupart des déchets d'un Fab Lab seraient traités sur place avec à l'aide des moyens biologiques. Donc ça, c'est un champ de recherche que j'aimerais initier ici à la Maison Populaire de Montreuil. Et voilà, pour voir si ça pourrait marcher, de dégrader au moins une partie des déchets non recyclables localement.
Il suffirait de quoi, en fait? Alors, il s'agit de quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des larves? Il faut un aquarium
Donc, en fait, la larve de Ténébrion, c'est une espèce très fréquente qu'on utilise pour l'alimentation animale, notamment des mascottes exotiques ou pas, des hérissons, des iguanes, voilà. Donc, on le trouve très fréquemment et qui est très facile à développer parce qu'en fait, il suffit d'avoir un récipient qui soit étanche ou pas, mais en fait un récipient dans lequel on va mettre les larves avec des matières sèches qui vont servir de nourriture. Normalement, on utilise des coupeaux d'avoine. Et voilà, donc naturellement, ils vont se nourrir, donner les scarabées qui vont se reproduire, donner de nouvelles larves, etc. Donc c'est des créatures très faciles à développer, voilà.
Et les excréments, alors, enfin, je sais pas comment on dit, les excréments,
oui, voilà, donc c'est là où c'était. C'est là où cette étude.
Est-ce que ça redevient du polystyrène?
Ouais, c'est biodégradable.
En fait, il paraît que c'est pas totalement. En fait, il reste encore des restes de polystyrène, donc c'est pas 100% dégradé, mais quand même, il y a une partie qui est dégradée. Donc, on étudie la manière de dégrader progressivement les polystyrènes.
Voilà. Et concrètement, pour développer cette étude, il vous faudrait quoi? Un aquarium et des larves?
Oui, voilà, c'est ça. Et je commencerai avec quelques exemplaires très petits et voir si, voilà, déjà, si on arrive à les faire pousser, s'ils se portent bien. Pour l'instant, on dirait que c'est très facile à maintenir. Donc
on voilà. Peut imaginer, par exemple, sur le wiki du Pop Lab qui est actuellement ouvert, vous pouvez vous connecter sur le site internet de la Maison Populaire dans le programme Atelier sur le Pop Lab, et vous allez voir, il y a un wiki, et du coup, on pourrait imaginer qu'on puisse suivre comme un Tamagotchi, finalement, l'évolution de ces petits vers, et qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que leur carapace va se transformer en plastique, par exemple?
Non, bon, en fait, faire des badges, c'est drôle, c'est que, en fait, les scarabées qui vont grandir, qui vont surgir de ces larves, en fait, ils ont remangé pratiquement que du plastique pendant toute leur vie. Donc, en fait, ils viennent du plastique. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec, mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant comme espèce.
Ariel, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Vous pourrez croiser Ariel ici, notamment sur les cours de publication assistée par ordinateur. Il commence à 19h. N'hésitez pas à vous connecter sur le site internet, sur le wiki, et puis vous pourrez croiser Ariel régulièrement à la Maison Populaire. Alors, sans transition, aussi peut-être un petit jingle, parce qu'on a mis une demi-heure à le faire, le fablabla, fablabla. Et ça nous permet de passer à Thomas Bello. Welcome, welcome. Thomas, vous nous entendez? Bonjour.
Je crois que c'est bon.
Ah bon, prenez le micro de votre voisine ou un bonjour, micro qui fonctionne
bonjour, peut-être.
Voilà, bonjour. On vous entend, Thomas Bello. Merci en tout cas d'être présent avec nous aujourd'hui sur ce Fablabla. Comme ça, c'est une exclusivité car dans quelques jours maintenant, nous allons présenter en partenariat avec Codev un projet d'atelier pour le Pop Lab autour de la 3D et l'art contemporain. C'est la première fois qu'on entend parler, enfin en tout cas au Pop Lab, d'art contemporain avec les imprimantes 3D. C'est vous qui avez soumis ce projet avec l'équipe de Codev. Généralement, on s'appliquait à refaire des petites pièces. Alors, j'ai cassé ma branche de lunettes, j'ai besoin de faire un écrou et on va l'imprimer avec l'imprimante 3D. Là, or, il s'agit véritablement donc de la réalisation collective d'une sculpture grâce aux outils 3D de modélisation et de découpe. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce projet?
Oui. Alors, comme on le voit en fait à l'écran, ma pratique artistique, c'était plutôt la peinture, donc une discipline plutôt classique, où la part technologique est quand même très faible. Et personnellement, je suis pas vraiment attiré par les technologies, mais par contre, l'imprimante en elle-même permet beaucoup de choses, beaucoup d'axes. L'imprimante 3D et le numérique que, par exemple, moi, je ne pouvais pas explorer avec une pratique classique. Donc, l'idée de l'atelier, c'est déjà ma propre découverte de l'imprimante 3D et de la modélisation 3D. Alors, je connais ça quand même depuis quelques années, hein, c'est pas vraiment tout nouveau. Mais l'idée, du coup, de réaliser une sculpture qui irait vers le champ de l'art contemporain, ça, par contre, avec ces nouvelles technologies, là, c'est quelque chose de plutôt novateur, et même pour moi. Donc, par rapport à ça, l'atelier consisterait en fait simplement à faire travailler un groupe, déjà à lui apprendre à servir des outils, donc du logiciel SketchUp, entre autres, pour modéliser déjà des formes 3D, et dans un deuxième temps, les imprimer pour constituer du coup une sculpture qui serait pas forcément que de l'impression 3D, mais qui pourrait être un agglomérat d'autres médiums qui pourraient être découpés avec une découpeuse laser, par exemple, la CNC, ou très bien être découpé à la main, avec des cailloux, on peut vraiment tout imaginer. Donc, vu qu'il n'y a pas, là, c'est quand même une phase expérimentale, donc c'est quelque chose dont on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller, surtout quand c'est un mélange de plusieurs personnes, de plusieurs profils, avec des enfants, donc ça peut vraiment aller un peu n'importe où. Et donc, l'idée serait de faire une pièce, du coup, une sculpture, qui pourrait prendre place au milieu de la maison pop. Et pourquoi pas après, en fonction de ses qualités, de sa pertinence dans le champ de l'art contemporain, peut-être voyager, être exposé à droite à gauche, voilà, pour souligner l'initiative.
Avant de passer à la prochaine question, ça tombe très bien que vous soyez là, puisque parmi nous, et avec plaisir, nous accueillons Magali de Bazeille, qui sera en résidence donc à la Maison Populaire cette année. Et on peut imaginer, par exemple, que vous réalisiez une sculpture qui soit en résonance avec le travail de Magali de Bazeille, c'est-à-dire que vous fassiez intervenir des jeunes publics qui travaillent sur le thème et qui travaillent avec les imprimantes 3D. Est-ce que c'est possible ?
Eh oui, ça serait même une bonne chose. Je pense que déjà, pour avec un jeune public, faire comprendre ce que c'est l'art en lui-même, fondamentalement, c'est déjà, à mon avis, une première chose à faire. Surtout pour se débrider par rapport à tout ce qu'on laisse entendre ou à quel point ça peut être élitiste ou complexe ou répondre à des codes très stricts. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas place. Mais déjà, c'est vrai que dans un premier temps, il est bien de pouvoir ouvrir les esprits et d'avoir des supports. Donc, la session curatoriale qui se passe dans le hall d'entrée peut être un support. Et c'est vrai que le travail de l'artiste qui est en résidence aujourd'hui peut être encore plus intéressante parce qu'étant sur place, elle peut elle-même nous répondre à des questions et sa présence simplement peut aussi débrider les esprits ou pouvoir un peu gratter au fond des gens et soulever du coup des problématiques des fois dont on n'a pas conscience nous-mêmes, des blocages qui sont complètement futiles.
Bon, ben le message est lancé, en tout cas c'est bien reçu et ça va bien passer, je pense. Justement, vous avez parlé de l'aspect « je suis artiste, je suis peintre », etc. Comment êtes-vous passé de la peinture, des arts plastiques à l'impression 3D ? Et pourquoi ? Comment on fait pour se dire « mais voilà, je fais de la peinture et je vais... »
Bah, la question, je ne me la suis même pas posée. Bon, dans les disciplines des arts plastiques, ça touche à beaucoup de choses. Et donc moi, je viens de quelque chose de plus classique, mais après, que ça soit en sculpture, en peinture, n'importe où, on parle de médium. Donc le médium, c'est quelle va être la matière qui va nous permettre de réaliser une œuvre, de concrétiser du coup un projet, une idée de manière formelle. Alors, finalement, que ça soit du plastique, du polymère ou du verre coulé, comme on a pu voir, que ça soit par une machine, finalement, c'est pas vraiment une approche différente de ce qu'on peut réaliser d'une manière générale. Il y a beaucoup d'artistes, ça se trouve surtout dans la sculpture, qui travaillent le métal. Donc, par exemple, là, la nécessité d'une machine est évidente. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de décalage ou il y a une continuité. C'est assez logique. C'est vrai que c'est une technologie qui est quand même pas facile à maîtriser. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de réussir à appréhender. Je pense que la chose la plus difficile, c'est réussir à concevoir une pièce, la modéliser en 3D. Donc avoir soi-même bien conscience de si on modélise par exemple simplement une table, comment est constituée une table. Donc en soi, ça amène déjà des questions qu'on se pose pas forcément. Et donc voilà, il y a cette gymnastique intellectuelle que je trouve par contre vachement plus intéressant par la modélisation 3D et les imprimantes par rapport à d'autres techniques qui sont des fois plutôt laborieuses et bon, je trouve très chronophage des fois, alors que là on a quand même quelque chose d'assez immédiat. La modélisation c'est pas très long et l'impression ne l'est pas trop non plus, donc je trouve que ça combine quand même pas mal d'intérêts.
D'où l'intérêt de la sculpture aussi, c'est la première fois que j'entends ça, c'est une idée très originale. Le foiré, le truc qui part un peu de travers, on sait pas ce que c'est, on va pas imprimer un écrou, on s'en fout, on met les couleurs de l'agglomérat et on y va. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire d'appréhender ces machines, de ce point de vue-là en tout cas. Le rendez-vous est pris, Thomas Mello. J'espère qu'on va se voir très bientôt à la Maison Populaire. En tout cas, je vous invite à venir passer... Le rencontrer, les rencontrer à Codev. À vous, notre facilitatrice.
Vincent ?
Oui.
Oui. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice de Codev. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Codev, nous dire ce que vous y faites ?